voix nue. Toute cette semaine, Sylvain Bourmont rencontre Jean-Claude Passeron. Ce soir, vers la sociologie via Michel Foucault.
Bonjour Jean-Claude Passeron. Hier, nous nous sommes quittés au moment où vous étiez en Algérie. Vous découvriez un tract du cinquième bureau dans lequel vous avez relevé une phrase qui n'était pas attribuée, mais une phrase de Bachelard. Et vous demandiez qui pouvait bien citer Bachelard dans un tract de propagande de l'armée française. Et puis, il vous faudra des années pour comprendre qu'en fait, c'était un certain Pierre Bourdieu qui travaillait au gouvernement d'Alger, aux côtés de Robert Lacoste, lui aussi appelé en Algérie. Ce Pierre Bourdieu, qui lui aussi vient du sud de la France, mais du sud-ouest, qui lui aussi est passé par l'école normale supérieure et une cagne à Paris avant ça, que vous ne connaissez pas,
à Louis le Grand,
et que vous ne connaissez pas encore, vous allez le rencontrer pour la première fois dans un lieu qui sera associé au parcours de Bourdieu, mais bien plus tard, la gare de Lyon. Alors, sans doute ceux qui ont découvert Pierre Bourdieu beaucoup plus tard se rappellent d'un Pierre Bourdieu à la gare de Lyon dans un discours syndical. Ça, on parle de 1995. Vous, c'était bien plus tôt que vous avez croisé Pierre Bourdieu, gare de Lyon, Jean-Claude Passeron.
Effectivement, c'est en 1961, un peu avant la rentrée universitaire, qu'ayant été appelé à Rome, enfin par son secrétariat, puis j'avais à Rome, sur une conciergerie de lycée, il me propose de devenir assistant de sociologie. Ce que j'accepte, puisque, soit dit au passage, autant la première année d'enseignement de la philo dans des classes de philo-lettres, devant des classes de sciences expérimentales et même de mathélème, où je leur enseignais la logique des syllogismes pour les écœurer un peu, et même là, je me suis rendu compte dès la deuxième année qu'il m'était pénible de devoir changer tout. Enfin, j'avais beau avoir noté après coup, après avoir improvisé ce que j'avais fait, qui me paraissait très bien pour la philolettre, mais je ne pouvais pas lire un cours. Et la troisième année, ça a été pire. Je me suis attardé dans l'argument ontologique de Saint Anselme à Heidegger. Je ne sais pas même plus pourquoi. Je n'aurais pas commencé ce qui était plus normal à Saint Augustin. Et sans doute parce que j'avais égaré mes textes à l'embarquement pour l'Algérie, ça je m'en souviens, où je n'avais sauvé qu'un volume qui était « Les morales du grand siècle » de Bénichou, et qui sera le seul volume avec lequel je reviendrai d'Algérie, où j'ai lu beaucoup de romans policiers, inversement, que j'allais acheter à Bougie. Mais c'est ce qui m'a permis de faire un cours aux élèves sous-officiers au Mans, sur les morales du grand siècle, qui étaient, sur les auteurs classiques qui étaient au programme. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'enseigne moins. Donc c'est un calcul rationnel, autre, qui n'était plus l'amour de la philosophie dans laquelle je croyais vivre. C'est un exercice de adolescent, du jeu, de la gymnastique avec les concepts. Ça avait été Spinoza, puis Hegel, Marx m'ayant toujours accompagné en tant qu'historien, mais ne pouvant pas supporter, ça a été à peu près la distance que j'ai prise avec Althusser à l'école, quand je me rends compte qu'il explique qu'après les thèses sur Feuerbach, on est dans la coupure épistémologique où désormais Marx a rompu avec tout idéalisme philosophique et qu'il est matérialiste, que le matérialisme historique, c'est une science de l'histoire, comme une autre science, la science par excellence. Et donc, moi, j'étais, m'étant un peu familiarisé avec la langue, la grande musique de la phrase hegelienne, j'étais au contraire sensible, ce que je dis dans plusieurs articles à cette époque, que Marx n'est jamais sorti. On ne sort pas comme ça de Hegel. Et que la machine dialectique est une machine dont Marx, oui, c'est Marx lui-même, qui se vante alors qu'elle tournait sur la tête dans le hegelianisme, de l'avoir remis sur ses pieds. Et donc d'avoir senti fortement, par concept, que une machine infernale, vous avez beau la retourner, elle est tout aussi infernale, et que la dialectique, comme idée que la logique puisse être en même temps un moteur sociologique, était une idée idéaliste, historiquement intenable pour l'esprit scientifique. Et donc à ce moment-là, je quitte Hegel et je me mets à lire des sciences positives, comme on dit, qui se développaient fort pendant mes années d'école, aussi bien, puisque là il faut quand même que je parle de Foucault, qui était l'autre proche, enfin le mentor. C'est pas un prof de philo, parce que il n'a passé la grecque, il était trois promotions après moi, et a passé la grecque la deuxième année, là, donc je l'ai fréquenté pendant trois ans, en tant que, d'une part, pendant deux ans élève, où il était le mentor de notre petit groupe, debout dans l'aquarium le soir, ce que dont beaucoup de gens se souviennent, où on parlait de beaucoup de choses, mais en particulier d'horreur sur le système soviétique, les démocraties populaires et le parti communiste, ce qui était très différent des conversations avec Althusser. Mais Foucault était déjà quelqu'un, un brillant philosophe, que moi, philosophe, je me suis mis à admirer à cause de sa virtuosité. À cette époque, on n'arrivait pas à savoir s'il était... Enfin, je n'arrivais pas à savoir... Et je voyais, parce qu'il publiait à mesure, aussi bien dans... Et après, il a été un encaillement de psycho à l'école. Et je n'arrivais pas à savoir si c'est son admiration pour Nietzsche, les derniers ouvrages de Nietzsche, et pour le Manifeste communiste, c'était une posture d'insurrection intellectuelle absolue, soit contre la vieille Sorbonne, la tradition néo-kantienne, mais en même temps contre l'ordre politique, social, répressif qu'il développera ensuite. Et il arrivait, non pas à dire je suis marxiste, mais à se revendiquer du Manifeste. Donc ce Foucault qui m'a beaucoup influencé, du coup, j'aurais préféré trouver un poste en psycho, surtout en psychopathologie, pour quitter le lycée. Auquel j'étais trois ans après le service militaire et avoir quitté l'école. Mais j'avais suivi Foucault, qui nous entraînait quelques agrégatifs au cours de présentation de malades à la Salpêtrière, oui, et qui m'avait passionné, d'autant plus que lui, à cette époque, a fait une introduction à Biswanger, Et donc la psychanalyse, surtout existentielle, à l'allemande, que je découvre dans les cours de Foucault, plus Freud aussi, il faisait un cours admirable là-dessus, j'ai dit aux autres à cette époque, beaucoup s'en souviennent, mais le seul génie ici, c'est Foucault, hein, c'est pas Althusser, voilà. Et donc, dans cette admiration, j'aurais pensé tout naturellement, si je quittais la philosophie pour l'enseigner que 5 heures par semaine et non pas 15, dans un lycée, c'était pour aller vers la psychologie. Mais le poste s'est présenté en sociologie, et pour moi, c'était indifférent. Enfin, je veux dire, presque, j'étais plus familier avec la philosophie classique que fréquente Durkheim, on le voit dans ses articles à cette époque, qu'avec... Je ne l'étais pas avec... comme Foucault, je trouvais un peu ridicule la psychologie expérimentale, Théodule Ribot, et ça, c'était l'éclat de rire chez Foucault. Ces gens, comme il explique, parce qu'il a été collé une fois à l'agrégation, je ne sais pas si je l'ai déjà narré, ça, qu'ayant tiré... il a été collé une fois parce que par excès de suffisance normalienne, enfin philosophique. La philosophie est arrogante quand elle regarde de haut les petites sciences humaines. Et il avait tiré une question qui s'appelait l'hypothèse. Et la certitude, comme il l'expliquait, mais moi je l'avais aussi, où il était devant un jury, où on attendait qu'il parle, comme disait Foucault, du pipi de lapin et du rôle que ça joue chez Claude Bernard, dans l'introduction à la médecine expérimentale, pour les provoqué, on ne peut pas dire autrement, il a choisi de ne parler que de l'hypothétone et de l'anhypothétone, de l'hypothétique et de l'anhypothétique chez Platon dans la République. Et donc, il s'est fait ramasser pour mauvais esprit, dirais-je presque, pour quelqu'un qui devrait enseigner la philosophie. C'est un jury très traditionnaliste. Et donc, Foucault a failli m'entraîner vers la psychologie.
Voilà. Mais finalement, c'est Aron, parce que Aron vous propose un poste et donc, de sociologue, là, d'assistant, que vous acceptez.
Avec une certaine mauvaise conscience philosophique, bien que ça ne fût qu'un exercice, parce que je me souviens que devant des gens vraiment philosophes, comme Foucault, Althusser aussi était opportuniste, si je puis dire, dans sa vie professionnelle, ne serait-ce que caïman préparant, indépendamment de toute influence politique, les agrégatifs à la grecque de philo. Mais j'étais déjà, outre mon anticolonialisme politique, j'avais été très tôt au lycée, et ça a continué, séduit, parce que les philosophes n'appellent pas philosophes, c'est-à-dire les philosophes du XVIIIe siècle. Et là, Frérung, aussi bien Diderot que D'Alembert, que la métrique, Cabanis, et l'inventeur du sensualisme, de la statue de Condillac, ce XVIIIe siècle qui invente le rationalisme de la Frérung, qui en Allemagne donne Kant, mais quand même les Lumières en Europe, c'est la découverte de l'esprit scientifique. C'est pourquoi les dernières années de l'école, je lisais ce qui se publiait en traduction française, quand c'était de l'allemand ou du français, ou alors c'était de l'anglais souvent, en psychologie clinique, en psychanalyse bien sûr, Freud commençait à être traduit, et d'abord, il était traduit en anglais, et en linguistique, et en anthropologie, au sens où à cette époque on appelait ça plutôt ethnologie, c'est-à-dire Lévi-Strauss. Donc j'étais du côté de cet esprit scientifique, mais j'aurais plutôt suivi la pente de Foucault vers la psychopathologie. À cause du fait que, naturellement, plus tard à cette époque, oui, un peu plus tard, je ferai une psychanalyse d'ailleurs. Et donc, mon désir de comprendre les choses des sciences humaines et de les faire ensemble dans la recherche scientifique, comme avec, en même temps que la pratique des sciences historiques, l'histoire étant le matériau sur lequel nous pensons, si nous pensons aux sciences de l'homme. Et Althusser avait toujours parlé, qui d'une part assez secrètement, enfin après il le met dans ses écrits, d'abord il a été longuement en psychanalyse, pratiqué, y compris Lacan, qu'il a invité à l'école, la psychanalyse, mais en même temps disait, voilà, ce sont deux continents, Freud et Marx, enfin l'histoire et la psychanalyse. Et il faudrait faire le lien, mais cela dit, j'ai pas trouvé chez lui le lien, parce, voilà. Alors que je me disais, voilà, il faudrait bien faire des sciences comme ça.
Alors, logiquement, vous auriez dû, dans le sillage en quelque sorte de Foucault, vous retrouver à travailler sur la psychologie. Mais le marché du travail, en quelque sorte, des sciences sociales se professionnalisant, se spécialisant, c'est ce poste d'assistant que Raymond Aron vous propose et qui va faire que vous rencontrez sur un quai de la gare de Lyon Pierre Bourdieu, parce que c'est le poste qu'occupait avant vous Pierre Bourdieu.
Oui, qui part à Lille au bout de 4 ans, je pense, pendant que moi j'étais en lycée à Marseille. Et, comment dire, les circuits, ça aussi, il y en a une sociologie à cette époque, comme maintenant ça passe par d'autres cheminements, ces recrutements, même par des élections. Mais à cette époque, c'était au contraire à la décision du patron, du prof titulaire d'une chaire en Sorbonne ou dans une fac de province. Et par conséquent, d'une part, Paul Venn, qui était déjà assistant de latin, je pense, à la Sorbonne, qui fréquentait Aron, plus tard, cette fréquentation l'amènera à être soutenue par Aron au Collège de France, après qu'il ait publié Comment on écrit l'histoire, auquel Aron fera donner un prix de l'Académie française. Bon, donc. Et là non plus, je ne pense pas que Veyne, très serviable, tout ce tas de choses, avait parlé de moi à Aron, qui cherchait un assistant. Et dans les circuits de cette époque, c'est agrégé de philo, normalien, plutôt. Bon, c'est pas que les circuits actuels avec élection.
Premier à la grecque de philo, quand même, ça doit aider aussi.
Oui. Voilà, c'est ce qu'avait dit Veyne. Cela dit, Bourdieu, qui était là aussi, qui ne se souvenait pas plus de moi que moi, je l'ai peut-être pas dit au passage, on s'était complètement ignoré à l'école. Je ne le connaissais que de silhouette, mangeant à une autre table, à une table, je dirais, assez snob, où il y a des gens qu'après j'ai connus, comme Abi Rached, qui a été directeur de... des dandys parisiens, comme Granel, comme Tubeuf, l'un comme l'autre devenu philosophe aussi. Enfin, prof de philo, je ne sais pas par où ils sont passés après. Granel a même traduit la crise des sciences occidentales. Il a fait vers 1968. Donc, Bourdieu était un autre groupe, et les groupes étaient des tablés, des commensalités, et à cette où on était 8, et donc j'ai nommé les principaux, mais il y avait aussi un élève italien que j'ai beaucoup fréquenté ensuite, Ivos Margoni, qui était de l'école normale supérieure de Pise, et Maurice Pinguet, qui écrira ce livre sur le suicide au Japon, là, mais qui s'est définitivement tatamisé, dit-on, à l'Institut français de Tokyo. Donc ce groupe d'amis, tous membres du Parti communiste, dont Genette, là, qui a dirigé un moment, je crois que ça s'appelait Clarté, le journal des étudiants communistes, mais qui, comme nous, était à la table, là c'était debout dans l'aquarium après le repas du soir de Foucault, où on s'abreuvait de ces difficiles choses, de ces choses difficiles à avaler, qu'étaient pour cette affiliation les horreurs, enfin, du système policier, mais d'abord du dogmatisme, de la ligne politique, qui n'était pas encore celle de Georges Marchais, qui n'était pas encore celle de Waldeck Rocher, qui était encore Duclos à cette époque, et donc la fidélité inconditionnelle à l'URSS. Dans ce groupe-là, les gens se préparaient, maintenant je l'interprète comme ça, étaient déjà tentés par leur future dissidence, vers la théorie de la littérature pour Genette, vers une histoire un peu weberienne pour Veyne, etc. Moi-même, c'est ce moment-là où je me déprends de la philosophie. Donc quand je rencontre Bourdieu, qui m'attendait gare de Lyon, on va prendre un pot dans le café. Moi, je venais pour un rendez-vous avec Aron. Et donc, il m'attend, on va prendre un café en face, et il me propose une alliance, en des termes totalement... J'étais sans philosophie, si on peut dire. Enfin, il faudra que j'ajoute après que mon seul point d'attache, même au retour de la guerre d'Algérie, en philosophie, c'était la lecture de la phénoménologie husserlienne. La lecture de Husserl. Mais, si j'ai le temps, je vous en dirai quelques mots. Surtout les méditations cartésiennes, où on voit bien pourquoi l'intersubjectif de la connaissance lui permet de penser que là, dans le cogito revisité par la phénoménologie, c'est nouer une alliance définitive entre la raison occidentale et la responsabilité collective que peut prendre l'humanité de son sort. Donc, un peu phénoménologue, mais sans philosophie, en tout cas pas vraiment marxiste, tout en restant sensible à l'histoire des luttes de classe sociale, Bourdieu me propose de faire des enquêtes. Il me dit, tu comprends, je suis secrétaire général du centre d'Aron, moi je pars à Lille, et bon, là on va... Aron, il est très libéral, ce qui est évident, enfin, je l'ai toujours dit... Et donc, avec les crédits américains, la confiance que lui fait la Fondation, on peut avoir de l'argent pour faire des enquêtes empiriques, puisqu'il veut ressourcer empiriquement sa sociologie critique des utopies plus ou moins fumeuses de la gauche parisienne. Donc, Aron était prof de socio en Sorbonne. Et à cette époque, bon, ben, moi, je débarquais avec mes fiches sur Lévi-Strauss, Mauss, Durkheim, bien sûr, Balbax, pour enseigner la sociologie, comme assistant d'Aron. Et Bourdieu me dit, on va faire de la recherche au centre. Donc, tu es d'accord? D'abord, bon, passons sur les détails. Il y a Crozier au milieu, mais il va ailleurs, en sociologie des organisations. Je pense que Bourdieu avait quand même un certain culte de la philo dont il était. Et simplement, on se rend compte dans la philo, il y en a marre. La philosophie, elle est dans l'impasse heideggerienne. On va pas faire de l'histoire de la philo. On va pas visiter les archives husserliennes à Louvain, comme font des gens de notre génération qui veulent rester philosophes, et on va pas refaire une thèse sur Descartes ou même Spinoza. D'ailleurs, lui, ça aurait été sur l'aïmisme qu'il admirait, moi, sur Spinoza. Donc, on va faire de la socio, mais en renflouant le courant de la sociologie européenne d'avant-guerre, où il n'y avait pas cette pauvreté d'idées qu'il y a dans la sociologie empirique à l'américaine, la Zinsfeld, etc. Mais on va faire des enquêtes et se servir des armes de l'enquête pour avoir une théorie sociologique plus riche. Et donc, on a passé cet accord qui a duré pendant les 12 ans, nous avons publié ensemble, lui-même venant de l'ethnologie et ses premières publications sur la Kabylie. Et là, quand j'arrive, qu'il transposait à une enquête qu'il faisait sur le célibat au Béarn de son enfance. Voilà. Une alliance.
Et Bourdieu a pu expliquer par la suite que son expérience algérienne avait joué un rôle dans sa conversion de la philosophie vers la sociologie. Vous ne diriez pas la même chose. Non, votre expérience algérienne n'a pas...
Ah non, pas du tout. Elle était purement politique. C'était, je vois plus que faire. Mais l'expérience anti-philosophique, la mienne, était de pratique d'une science de l'homme, que je commençais à lire beaucoup. Et donc, comme ça n'a pas été la psychologie, j'ai plongé dans les enquêtes sociologiques. Ah oui, mon expérience n'était pas une expérience originaire. Mon village dans le sud-est, que je connais bien, où j'ai commencé quelques petits travaux comme ça, mais pour les noms propres de famille, de choses que... j'avais des interviews qui me les faisaient vivre, en quelque sorte. Mais c'était mon expérience scolaire. Et là aussi, je rencontrais Bourdieu qui avait de mauvais souvenirs, enfin, de son origine et ce qu'il avait valu au lycée. Vous voyez, vous entendez dans Les Héritiers encore les échos du truc qui sont de Bourdieu, dans d'autres sont de moi, mais c'est pas les mêmes. Lui, c'est quand il parle impersonnellement, et nous l'écrivons ensemble, je me dis, oui, ça, bon, c'est la pression parentale, la crédulité des parents d'origine populaire intoxiqués par les profs de français qui leur expliquent que leur fils n'est pas bon en français. Et ça, le n'est pas bon en français, c'est sa mère entendant ça d'un prof de lycée à Pau. Et, tandis que moi, c'était passé là, c'était une expérience scolaire de la mortalité scolaire, c'est-à-dire des gens après l'école primaire que je vois décrocher au lycée du latin, du grec, il n'y en avait pas. Ils étaient tous fils de médecins qui allaient devenir médecins. Et donc, et après, c'est l'hypocagne et la cagne et l'entrée à l'école. Et je vois très bien ce que lui interprète comme une expérience de miraculé, il emploie souvent ce mot. Pour moi, ça n'avait pas été ça. Ça avait été un tapis roulant dont après, en tant que sociologue, j'avais un peu honte, c'est-à-dire un tapis roulant qui m'a déposé dans l'aquarium de l'école normale supérieure à partir de l'entrée en sixième. Pour moi, il n'y a pas de rupture là. J'ai rencontré la concurrence en Cannes. J'ai rencontré cette dénonciation de sursis après une première tentative à la grecque qui fait que je me retrouve en Algérie et que je ne la passe. Parce que j'avais tout oublié, pas dans l'Algérie, j'avais lu que des romans policiers, et c'est excellent pour passer la grecque de philo, il ne me restait que des schèmes et des noms propres.
C'était quoi ces romans policiers que vous lisiez ?
Ah, mais c'était ce que je trouvais chez un marchand de. Comme sur les quais, mais à Bougie, il n'y en avait qu'un, des romans policiers récents, mais français, pas américains, il y en avait très peu de la série noire. Ça, je lisais beaucoup de romans policiers. De même, à l'école, ça a laissé des traces dans la linguistique. Nous allions tous les jours au cinéma, c'est pourquoi je préparais peu la philo.
Tous les jours ?
Oui, avec Molineau ou Metz. Metz qui deviendra filmologue, et nous linguiste, à l'imitation de la linguistique de la littérature, parce que nous allions voir, nous dépiotons, après les l'avoir vu, dans des ciné-clubs souvent, parce que c'était des films un peu anciens, Le crime était presque parfait, de Hitchcock, ou Le faucon maltais, encore plus ancien, et ça c'était ma pente à la logique, lui à la linguistique. Et donc j'ai vu beaucoup de films. Et ça aussi, c'était un métier possible. Parce que le cinéma ou le scénario m'intéressait.
Dans un livre d'hommage à vous, dans son introduction, Jean-Louis Fabiani dit que vous aviez parlé de Max Weber avec Ava Gardner à Cannes.
Oui, non, c'est faux, bien sûr. Ça, c'est les plaisanteries de Fabiani, enfin, qui sont au départ les plaisanteries de Vaine, hein, parce que comme j'ai rencontré à Rome pendant le tournage aux pieds nus, comme figurant à un bar, Vaine racontant ça, alors qu'il est très soigneux.
Ah, vous avez quand même été figurant dans La Comtesse aux pieds nus.
Oui, dans une boîte de nuit, mais j'ai essayé de le voir. Je ne me vois pas. Mais j'étais allé à Rome pour faire un peu de fric sur la fin de mon service militaire, je pense, puisque j'étais au Mans.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvain Bourmeau avec Jean-Claude Passeron. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Pascal Bernard, réalisation Luc-Jean Reynaud, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.